carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous sommes dans la maison de Pierre Loti à Rochefort en compagnie de Sébastien Leboucher qui nous reçoit pour une visite d'une maison très symbolique, très emblématique puisqu'elle a accueilli la vie de Pierre Loti. Il y est né mais il y a vécu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Sébastien, en quoi cette maison est caractéristique de l'homme et de l'œuvre ?
Oui, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes ici donc au cœur même de sa maison, une maison natale. Une maison qui ne faisait que 7 mètres en façade et s'étendait sur une vingtaine de mètres en longueur. C'est vraiment la maison typique de Rochefort, puisque la ville a été reconstruite suivant le même schéma pour y accueillir bien toutes ces familles d'ouvriers qui allaient travailler à l'arsenal. Alors cette maison est tout à fait emblématique de Pierre Loti, puisqu'elle est sacrée à ses yeux. Il a vécu là des moments de bonheur extraordinaires, puisqu'il a été chouchouté à l'extrême. En effet, lorsqu'on entre ainsi dans cette maison, on découvre le salon rouge, un salon qui suit la mode empire fin de siècle des salons bourgeois, que l'on peut retrouver à Paris chez Victor Hugo, notamment place des Vosges, mais qui a su garder tout le cachet de son enfance. En effet, ce salon de son enfance qu'on peut ainsi entrevoir grâce à quelques éléments de décor de style Louis-Philippe qu'il a gardé, eh bien, nous permet de comprendre à quel point il était très attaché à l'atmosphère de son enfance. Il avait été extrêmement entouré par l'affection de sa famille, puisqu'il était le troisième et dernier enfant d'une famille bourgeoise protestante de Rochefort. Il avait déjà une grande sœur Marie qui avait 19 ans de plus que lui, et un grand frère, Gustave, qui a 14 ans de plus que lui. Alors bien sûr, il va être élevé dans la tradition familiale protestante, la Bible qui occupait le centre de cette pièce autrefois, va être à la base de son éducation. C'est sa mère, Nadine, qui était véritablement, issue de cette famille protestante de l'île d'Oléron et qui avait demandé à son futur mari, qui convoitait sa main depuis son adolescence, de se convertir par amour pour elle. Alors son mari, Théodore Viau, lui était issu d'une famille modeste. En effet, il rencontra sa future femme alors qu'elle rendait visite à ses grands-parents qui vivaient dans cette maison, une maison d'ailleurs où elle était née elle-même, et elle venait de l'île d'Oléron, où elle vivait dans la mythique maison des aïeuls que Pierre Loti décrit dans le roman d'un enfant, pour aller tout simplement apporter le linge de sa famille en face à Madame Viau, sa future belle-mère. Et Théodore de succomber au charme de Nadine, lui qui est de condition modeste, catholique de surcroît, il allait braver toutes les conventions et, sur les conseils de Nadine, il allait devenir un élément essentiel de la vie rochefortaise. Il allait être élevé au rang de secrétaire en chef de la ville de Rochefort. C'est un homme qui est un travailleur acharné, honnête, droit, sérieux, toutes les qualités que désire Nadine. Et il s'est converti le jour de son mariage, et elle lui a donné 3 beaux enfants. La famille d'une grande piété se réunissait dans ce salon, car Julien, même s'il est chouchouté, n'échappera pas, bien entendu, au rituel qui se dirige ici chaque soir par son père, qui tient la Bible du XVIIIe siècle de la famille, et qui voit autour de lui s'agenouiller ses enfants, sa femme, mais aussi 5 vieilles dames que Pierre Loti appelle « mes chères vieilles robes noires » dans le roman d'un enfant et qui allaient partager sa vie d'enfant. Elles ont été recueillies parce qu'elles étaient veuves ou désespérément célibataires et il allait, connaître là un amour extraordinaire. Elles l'entouraient. Elles allaient jouer avec lui au théâtre de Podane qu'elles avaient fabriqué pour lui avec des noyaux de cerises, des bouts de chiffon. Elles allaient même aller jusqu'à faire ses punitions. Ce sera le cas pour la tante Claire, la sœur de sa mère, qui voyait en lui un fils, le fils qu'elle n'avait pas pu avoir. Et elle allait faire jusqu'à ses punitions. Donc elle savait imiter son écriture. Alors cependant, Julien, par la volonté de son père, allait recevoir une éducation extrêmement rigoureuse, avec des précepteurs à domicile, car il était né dans la bourgeoisie. Et son père voulait vraiment la meilleure éducation possible pour son fils, puisqu'il voulait le voir entrer à Polytechnique plus tard. Alors, il va intégrer le collège qui porte son nom à Rochefort, et puis ensuite le lycée impérial Napoléon à Paris, qui est aujourd'hui le lycée Henri IV. Cette éducation, l'a beaucoup marqué. Il dira « J'ai été trop tenu, trop choyé, je subissais des amollissements subis de plantes enfermées, un certain surchauffage intellectuel. » Et il y avait quand même des moments pour s'amuser. Notamment à l'occasion des fameux mercredis soirs, puisque le mercredi soir au beau jour, une amie d'enfance, Lucette, dont on peut voir ici le portrait en médaillon, Lucette qui était la fille des meilleurs amis de sa mère, l'invitait à jouer à la Limoise. Alors c'est de l'autre côté de la Charente, dans un village voisin qui s'appelle Échillé, où il y a toujours cette maison qui appartenait au Duplay des Touches et qui se trouve toujours à l'orée d'un petit bois que Pierlotti connaissait par cœur. Et il jouait énormément là-bas avec elle. Et il regardait même le soir, lorsqu'il faisait chaud, sur le toit des tuiles encore chaudes, son étoile, leur étoile, l'étoile polaire. Alors vraiment, ce sont des moments merveilleux qu'il a tenu à conserver en lui avant que ne s'abattent en fait des années de tragédie. Parce que sa foi va complètement être mise en question après une succession de malheurs. À l'âge de 15 ans, au sortir du temple, il a pris cette nouvelle qui va vraiment le traumatiser à vie et qui va remettre en question toute sa croyance en Dieu. En effet, son frère est mort. Ce frère adoré, Gustave, qui lui a transmis sa passion des voyages parce qu'il était chirurgien de marine, il est sorti de l'école de médecine navale de Rochefort qui était extrêmement réputée à l'époque. Eh bien, ce frère qui lui avait transmis cette passion pour les voyages, pour la mer, qui lui avait envoyé des lettres de Tahiti notamment, il avait été en mission pendant 2 ans, qui lui ramenait sans cesse des petits trésors, qui allait garnir un petit galta qu'il transforme en cabinet de curiosité, eh bien ce frère qui était son héros venait de mourir. Et il priait Dieu à chaque fois pour qu'il sauve son frère. Évidemment, sa foi en était branlée et c'est la première fois d'ailleurs qu'il voit sa mère pleurer. Il faut dire que 6 mois plus tard, il perdra Lucette, son amie d'enfance, qui est morte, elle, de la malaria. Son frère est mort de choléra au sortir d'une mission en mer de Chine et son corps, d'ailleurs, a été immergé dans le golfe du Bengale.
Beaucoup d'événements tragiques.
Beaucoup d'événements tragiques. Et Lucette revenait de Guyane où était stationné son mari. Et Julien évoquera sa disparition, bien sûr, dans ses récits autobiographiques. Et il a été profondément touché parce que c'est comme si vous voulez, son enfance allait disparaître d'un coup. Et cela, ce n'était pas possible. Alors, il faut dire que l'année suivante, il dut abandonner ses études parce que son père a été inquiété par la justice. En effet, il va être déshonoré lors d'un scandale financier. Et la ville est en émoi puisqu'elle accuse le secrétaire en chef d'avoir égaré de l'argent, beaucoup d'argent, 14 000 francs hors de bon porteur. Et Théodore est inquiété par le tribunal de Sainte qui finira par rendre un non-lieu faute de preuves. Mais parce qu'il était responsable de cet argent et que c'était de l'argent public, il va devoir rembourser dans son intégralité et les intérêts en plus, je dirais, sur ses biens propres. L'éducation que Julien avait reçue, eh bien, allait le servir finalement, car il entre dans la marine. À 17 ans, il faut sauver sa famille. Il faut qu'il ne soit plus une charge pour elle. Alors, la famille qui vit ainsi pauvrement pendant plusieurs années à l'arrière de cette maison, eh bien, va devoir installer des locataires de malheur, dira Pierlotti, qui lui devient un jeune officier pauvre. En effet, la marine l'accueille. Il a passé le concours d'entrée de l'école navale à 17 ans. Il est à Brest pendant 2 ans. Pendant ce temps-là, son père, malheureusement, meurt de chagrin quand Julien a 20 ans. Julien alors se fait la promesse de tout rembourser. Et grâce à l'aide d'amis rencontrés dans la marine, beaucoup plus argentés que lui, eh bien, il va pouvoir, grâce à des petits emprunts, racheter cette maison. Et il va travailler avec acharnement. En effet, il va d'abord écrire des reportages, car il va devenir le dessinateur officiel de la marine lors d'une campagne. En 1872, au mois de janvier, il est à Tahiti. Il va ainsi décrire, grâce à ses dessins, l'esprit de ses paysages de Tahiti et de l'île de Pâques aussi par la même occasion. Bien entendu, sa sœur Marie, qui l'avait initié à la pratique du dessin, qui lui avait demandé de tenir un journal intime, qui est en fait la portraitiste de la famille. Elle avait en effet autrefois décroché une bourse d'études pour faire ses études au Louvre sous la conduite de Léon Cogniet. Eh bien, elle avait ainsi initié son jeune frère à la pratique artistique. Et elle, qui connaissait un peu le milieu parisien, va négocier ses premiers contrats auprès de journaux comme l'Illustration, Le Monde Illustré, qui était ravi, bien entendu, de retoucher quelque peu les dessins de Julien. Puis finalement, ils sont si magnifiques qu'ils seront publiés ainsi intacts. Et Julien, alors qui va commencer à découvrir le milieu du théâtre, le milieu des salons parisiens, va très vite devenir l'ami de Sarah Bernhardt. Car ce n'est pas vraiment l'officier que l'on rencontre à Paris, non, il est un peu provocateur. Il joue sur sa personne, sur ses belles manières, qu'il commence à développer et on commence à entrevoir le personnage de Pierlotti, ce dandy provocateur, le prince de l'esprit, diront les journalistes parisiens. En effet, Sarah Bernhardt a succombé à ses yeux noirgés, car il adorait souligner ses yeux de Cole. C'est un orientaliste passionné depuis sa rencontre avec une certaine Asiadée, qu'il décrit ainsi dans son premier roman. Il était stationné en 1876 à Istanbul et là, c'est une véritable déclaration d'amour, cette Asiadée, pour la Turquie. Il n'aura de cesse d'être l'ardent défenseur de la Turquie, même si par ailleurs, la Turquie a été l'allié de l'Allemagne, a massacré 2 millions d'Arméniens, Pierre Loti restera toujours fidèle à son poste. Et comme le dira d'ailleurs Henri de Régnier, membre de l'Académie française, chez lui le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est un être passionné avant tout. Un homme qui va ainsi bien franchir toutes les étapes qui vont lui permettre d'accéder au rang d'une star. Car en effet, il va se mettre à écrire la littérature, par nécessité du moins dans un premier temps. Et il va convaincre Juliette Adam, directrice d'une nouvelle revue, de son talent. Elle croit en lui. C'est la directrice d'une nouvelle revue, et elle était veuve d'un sénateur. Elle était toute puissante dans le milieu littéraire parisien, et elle recevait ainsi, lors des fameux salons du lundi, boulevard Poissonnière à Paris. Elle y recevait Victor Hugo, Gambetta ou encore Alphonse Daudet. Alors elle protège certains artistes et elle croit en lui. Elle devient vraiment sa marraine littéraire. Voilà, sa marraine littéraire. Et elle le protège. Dans un premier temps, il écrit de manière anonyme parce qu'il a très peur d'être envoyé de la marine, car on ne peut se soustraire à son devoir de réserve, hein, qu'il outrepasse largement puisqu'il écrit ce qu'il veut finalement. Et Asiadé ne va pas vraiment rencontrer un énorme succès. C'est plutôt le mariage de Loti qui va vraiment l'introduire de plein pied dans les salons littéraires. Il a 30 ans. Et là, eh bien, Marcel Proust, qui honore ce roman, qui déclame, lors de ses fameux dîners, bien quelques pages du mariage de Loti. Le mariage de Loti, un roman tahitien qui permit à Gauguin de découvrir les paysages qui vont l'enchanter ensuite. Alors effectivement, ce jeune homme se pavane désormais dans les salons parisiens, offrant des allures de dandy, un peu à la Jean Lorrain ou à la Brumelle, et qui adore se parfumer, qui adore s'entourer d'hommes très beaux, de jeunes marins, de jeunes matelots, car c'est un esthète.
Il aime les femmes et les hommes ?
Oui, on peut dire qu'il aime tout ce qui est beau, en fait. Il a un rapport au culte du corps assez fabuleux, puisque lui, eh bien, va lutter à sa manière contre le temps qui passe en faisant énormément du sport. Alors, effectivement, c'est un être sensible qui, à 36 ans, va connaître la consécration avec Pêcheur d'Islande, le mythique Pêcheur d'Islande, qui a été traduit dans une dizaine de langues, notamment en allemand par Sa Majesté Elisabeth de Roumanie, qui écrivait en littérature sous le nom de Carmen Silva et qui le recevra dans son château de Sinaia à Peleș, en Roumanie. Pierre Loti fréquente désormais toute la bonne société et il sera très proche d'Alice de Monaco ou encore de Nathalie de Serbie. Alors un homme qui connaît là une consécration merveilleuse, mais qui devra cependant écouter sa pauvre mère, qui se désole de le voir toujours célibataire. En effet, à 36 ans, il est temps qu'il se marie et elle ne sait pas quoi faire de toutes ces demandes en mariage qu'elle reçoit. Il était devenu effectivement un bon parti. Alors son fils, eh bien, respecte tellement sa mère qu'il dira au journaliste « Ma mère, c'est mon seul unique amour ». Alors il écoute ainsi, je dirais, les conseils de sa mère. Il lui demande, en fait, de choisir cette jeune femme, et comme il appartient désormais à la bourgeoisie, il accepte un mariage de raison. C'est pour lui une formalité, pour avoir un fils, pour satisfaire le désir de sa mère de connaître sa descendance. Finalement, c'est Blanche, Franc de Ferrières, qui a été choisie, une femme issue d'une modeste aristocratie, une famille bourgeoise, qui vit à Bordeaux désormais, elle est originaire du Périgord. Elle répond vraiment à ces trois critères que Pierre Loti avait établis. En effet, cela va orienter le choix de sa mère et de ses vieilles robes noires. Elle est protestante, riche et surtout elle est plus petite que lui. Pierre Loti souffre toute sa vie de sa petite taille et doit se doter de talonnettes pour mieux commander ses hommes. Alors il rencontra ainsi la perle rare au mois de juin 1886 et comme il rentrait de Bretagne, du pays de mon frère Yves, car il s'est amouraché ainsi du pays d'un de ses jeunes matelots qui fit de lui en fait le parrain de son fils. Ce mon frère Yves l'avait invité et il se rend compte finalement en arrivant à Bordeaux qu'il n'a pas le temps de se changer. En effet, c'est un génial reporter aussi, Pierre Loti, qui aime se fondre dans la population qu'il rencontre et là, il se présente à sa future femme en tenue de jeune mariée de Pont-Aven. Évidemment, Blanche est un petit peu désarçonnée face à ce personnage dont elle découvre l'extravagance. Finalement, elle est avertie, car elle vivra aux côtés de deux hommes qui vivent pourtant dans le même corps. D'un côté, il y a Julien Viau, le militaire, qui reste fidèle au poste pendant 42 ans et qui finira au grade de capitaine de vaisseau, équivalent à celui de colonel, si vous voulez, dans l'armée de terre, et qui, par ailleurs, est le célèbre écrivain Pierre Loti, qui fit quelquefois scandale, qui, notamment, va, à 41 ans, entrer à l'Académie française au fauteuil de Jean Racine, le fauteuil laissé vacant par Octave Feuillet, et il avait battu Émile Zola. C'était là vraiment sa plus belle victoire.
Parlez-nous de ce qu'il ressent à l'Académie française.
Alors à l'Académie française, Pierre Loti viendra rarement, puisque il préfère les voyages. Il dira d'ailleurs lors de son allocution, lorsqu'il sera reçu à l'Académie française son discours de...
En 1891.
C'est cela, voilà. Il va être reçu donc au mois de mai 1891, il va être élu. Et l'année suivante, lorsqu'il fait son discours de réception, il va dire « Parmi toutes les légendes qui courent sur moi, une est tout à fait vraie, je ne lis jamais. » Alors évidemment, il veut dire par là qu'il n'a pas été formé, comme Victor Hugo, à entrer dans la littérature, à recevoir une éducation qui allait forger son talent littéraire, mais il était arrivé là vraiment par hasard, si je puis dire, par la force des choses, par nécessité même, et que cependant, il avoue que si un livre attire son attention, il est tout à fait capable d'aller jusqu'au bout. Donc il est un peu, il tranche un petit peu avec le reste des membres de l'Académie française, alors certains l'adorent, comme Ernest Renan, et d'autres le détestent, comme Victorien Sardou, qui regrette très vite de lui avoir donné sa voix, et qui lui avait lancé un jour ce fameux billet adressé à Monsieur Pierre Lotto, lieutenant de Vessie, parce qu'on lui reproche d'être un personnage un peu trop efféminé, d'être tout à fait excentrique, et il faut dire qu'il il a vraiment beaucoup de charme. Il se maquille, use et abuse, je dirais, du maquillage pour cacher les taches de peau. C'est une manière d'être à la hauteur de ce personnage. Il était le plus jeune immortel de France. Et puis surtout... c'est un orientaliste, alors souvent ses yeux sont soulignés de colle, souvent il est très parfumé, c'est un parfum de rose qu'il appelle Loti Rose d'Amour. Quelques académiciens, la vieille garde, si je puis dire, est un petit peu agacée par, je dirais, le côté excentrique du personnage. Mais bon, il est vrai aussi qu'il a un peu dépoussiéré l'académie aussi à l'époque. Alors cet homme va être célèbre, va rester dans les mémoires pour l'organisation de ces fêtes costumées. Et pour cela, il lui fallait un décor.
Alors, on entre dans une nouvelle pièce qui est le salon.
Voilà, le salon bleu. Alors, à 45 ans, il va racheter la maison voisine grâce à la dot de sa femme. Il rachète l'ancien numéro 139 et il va véritablement le transformer. Il fait abattre la porte d'entrée, le couloir qui desservait la cour, et va abattre aussi une grande partie du premier étage. Je dirais que en façade, ce que l'on voit véritablement, c'est un salon bourgeois, un salon bleu qui répond en fait au salon rouge. Finalement, Pierlotti a cédé à la mode de l'époque, la mode empire, une mode tout à fait académique, et a simplement recouvert la tapisserie de son père d'un tissu de velours rouge. Vraiment, il veut préserver un peu de l'âme de son enfance dans ce salon natal.
On est surpris par le contraste, effectivement, entre les pièces.
Voilà. Ici, ce salon bleu fait le pendant, généralement, au salon rouge. C'est un salon qui est élaboré par sa femme, Blanche. Elle reçoit ses amis, il y a là du mobilier de facture Louis XV et Louis XVI, et cependant, Pierlotti dira de ce salon « Je m'y ennuie à mourir ». En effet, ce salon ne l'invite guère en voyage. Il y a un piano qui fut rajouté ensuite par son fils, un piano Erard, demi-queue, et une commode écritoire allemande du XVIIIe siècle que son fils aussi a mis en place ici. Alors la seule chose à laquelle il était vraisemblablement attaché, c'est ce tapis qui orne ainsi ce salon, qui a été offert par la Turquie en hommage à Pierlotti en 1921, un tapis offert en main propre par Madame Ferit Bey, qui récompense en quelque sorte au nom de sa nation, eh bien, je dirais, l'ardent défenseur de la Turquie. Un tapis tissé pour vous, lui dira-t-elle, par des orphelins dont les parents ont été massacrés par les Grecs. Alors bien sûr, Pierlotti affirme, persiste et signe en plaçant ce tapis à la vue de tous, puisque de la rue, évidemment, on pouvait entreapercevoir un petit peu de son intérieur. Mais par contre, ici, au contraire, on ne pouvait pas vraiment voir ce salon, car il est fermé par des rideaux.
Et là, on entre dans un autre univers.
Un autre univers. Là, c'est
très feutré.
Voilà, c'est ce que Marcel Proust appelle le palais des rêves de Pierlotti. Alors, en effet, Pierlotti ne songe qu'à voyager, qu'à se distraire. Parce que toute sa vie, il est, je dirais, mu par cette mélancolie profonde qui l'assaille un peu plus au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il perçoit un peu trop la mort dans la réalité. Ce qu'il n'accepte pas, c'est la séparation physique qu'entraîne la mort. Alors s'il pouvait retenir un peu du temps, un peu du spectacle de son enfance et de ses voyages, il lui fallait pour cela un décor enchanteur.
Alors décrivez-nous ce décor pour faire profiter nos internautes.
Alors effectivement, vous avez là un décor immense qui est absolument surprenant. Car on n'ose guère imaginer les dimensions de ce décor de la rue, puisque la façade a gardé ce côté très classique. Et là, Pierlotti va choquer et va s'amuser, parce que le fait de choquer participe ainsi de sa distraction permanente. Alors ici, lui-même est choqué par le décor. Imaginez ce décor qu'il a révolutionné. Il a supprimé jusqu'à 6 pièces au-dessus de nous. Il a gardé une tribune et les appartements qu'occupait notamment sa femme se trouvent toujours en façade. Ici, on se croirait plutôt dans un château mystérieux au cœur d'un conte de fées. Et il faut dire que Piolotti apprécie les contes de fées. Alors, il est à l'image de Jean Cocteau, son grand admirateur, hein, puisqu'il lui a envoyé quelques-uns de ses ouvrages dédicacés au maître. Et c'est vrai que Jean Cocteau, ici, aurait pu tourner quelques scènes du château de la Bête. En effet, le procédé, je dirais, chez Piolotti est comme chez Victor Hugo à Guernesey. En effet, il va exploiter l'historicisme. Il apprécie les décors de châteaux d'autrefois. Alors c'est vrai que Piolotti est mû par un certain fantasme aristocratique aussi. Hein. Et c'est un habile collectionneur, un collectionneur d'art, à l'image d'André Malraux ou de Pierre Berger.
Qu'est-ce qu'il collectionne particulièrement ?
Alors il collectionne des souvenirs de voyage. Notamment, vous voyez ici, au milieu de ce décor, une lampe à huile turque en cuivre, 19e. Vous voyez des bols indiens qui sont en fait posés sur un meuble basque. Et vous voyez encore aussi un vase espagnol de Talavera. Tout cela lui permettait, rien qu'en posant son regard sur ces objets, vraiment de se retrouver dans ces pays, dans ces contrées.
De s'évader.
Voilà, de s'évader tout simplement de la tristesse de la réalité. Alors ici, le style du salon évoque le style à l'espagnol, c'est un salon très sombre, où il joue avec le clair-obscur, si je puis dire, puisque vous avez une grande verrière qui donne sur la cour et qui éclaire ce salon. Alors la lumière filtre, ce qui donne un petit côté... je dirais un peu intemporel. Et au mur, alors on voit des tapisseries flamandes qu'il avait achetées à un agriculteur de la région. Elles datent du XVIIe siècle. Et ces tapisseries, en fait, traitent de l'histoire de Constantin le Grand, le fondateur de Constantinople. En effet, Istanbul est toujours évoqué ici. Il faut dire que c'est un salon de réception. C'est le salon de réception de l'académicien Piolotti. Et on sent, de par, je dirais, cet effet de grandeur, eh bien on sent cette belle revanche sociale. Voyez notamment ce plafond qui culmine à 12 mètres, un plafond qui n'est pas sans rappeler celui de Chantilly, où il a été reçu ainsi 6 mois avant son élection, au mois de décembre 1890, par ses pairs, qu'il accueille dans la galerie de chasse de Chantilly, qui possède donc, au dire d'un de ses biographes, eh bien, ce même plafond à caissons et clés pendantes.
Une belle revanche ?
Oui, une belle revanche sociale, et c'est là où Piolotti va s'en donner à cœur joie, puisque c'est un décorateur génial. Vous avez une cheminée monumentale où il va jouer avec les différents styles, hein, parce que le décor est très riche, très éclectique. Il y a une dynamique. Vous avez un foyer néo-gothique, une frise baroque espagnole et un réseau de remplage néo-flamboyant qui met en scène une statue de Sainte Thérèse. Il fallait le faire quand même, lui qui était protestant de souche. Alors il est très provocateur, mais reste toujours avec son âme d'enfant. En effet, devant cette cheminée, il n'y a pas la bête, bien sûr, mais deux petites chaises d'enfants très émouvantes qui ont été, je dirais, utilisées autrefois par ses grands-mères de l'île de Léron, par sa mère, par le petit Julien, et il les a signées. Alors ici, bien entendu, il est percé, je dirais, par cette atmosphère très intemporelle, comme s'il était un peu dans le château de la Belle au bois dormant, voyez-vous, parce que ce château, il l'avait découvert enfant, hein. C'était le château de Saint-Porchaire, c'est un petit village qui se trouve sur la route de Sainte. Il y allait en vacances parce que c'est là que sa sœur le recevait. Ce village est toujours gardien de ce château puisque, une fois devenu membre de l'Académie française, il va dénoncer, je dirais, le massacre qu'on allait commettre, je dirais, là, parce que ce château faillit devenir carrière de pierre tout d'un coup. Alors il va dénoncer tout cela et va écrire au Figaro, et finalement le Figaro lui offre la une. C'est ainsi que son appel au secours fut entendu par un riche industriel de Rochefort qui sauve le château de la Roche-Courbon. Alors Piolotti, en effet, est très inquiet de voir ce patrimoine, je dirais, disparaître. Cela le ramène à ses doutes, à cette crainte de la mort, à cette crainte de la finitude de toute chose, à ce néant final qui n'aura de cesse de l'angoisser. Alors il va se distraire, et grâce à des fêtes costumées, il était passé maître dans l'art. En effet, les journalistes de l'époque lui avaient donné quelques petits surnoms, l'enchanteur, le magicien, le maître du temps. Et en 1903, il va organiser ici une fête chinoise. Car dans l'arrière-cour, il y avait autrefois une salle chinoise qu'il avait orchestrée avec 600 kilos de souvenirs ramenés ainsi de la guerre des boxers. Et il allait ainsi inaugurer ce salon en grande pompe avec le tout Paris. Près de 200 personnes arrivèrent ainsi en gare de Rochefort. Nous sommes le 11 mai 1903, il est 20h, et la ville entre en révolution, si je puis dire. Alors, il faut dire qu'il s'amuse beaucoup et demande à ses porteurs, qui emmènent ainsi les invités en pousse-pousse, de faire 3 fois le tour du quartier, pour être sûr, dit-il, d'être vu de tous. Alors, bien entendu, les invités ont remarqué des Rochefortais qui sont là dans la rue, pris de panique, à regarder un peu hébétés le spectacle par les fenêtres grandes ouvertes. Et voici que les invités se retrouvent là dans cette salon immense, mais qui s'avère trop petit pour eux, parce qu'ils sont près de 200. L'orchestre sur la tribune est comme là, est toujours là, et attend en fait un signe de l'artiste. Et 20 minutes plus tard, un gong retentit dans les escaliers, et voici que l'orchestre commence à jouer la marche des nuages. Et un cortège fabuleux alors est présenté, enveloppé dans une mer de nuages, et on voit surgir l'impératrice Utsétienne, emmenée par un cortège fabuleux. Il y a là des soldats en armes qui purifient l'air avec des chasse-mouches. Ils sont suivis par des mandarins qui portent bien haut de lourds baldaquins circulaires rouges et or. Et voici que l'impératrice paraît aux côtés de Pierre Loti. Elle n'a que 16 ans. Elle s'appelle Utsétienne. Et bien entendu, la foule se tait. Et on comprend alors le caractère solennel de cette soirée. La foule s'écarte, s'incline au passage de cette jeune femme qui porte une robe de soie brodée d'or et dont le regard est dissimulé sous une coiffe de perles rehaussée d'un phénix rayonnant. Elle n'offre aucun regard. Elle qui est décrite par Judith Gauthier, qui représente le magazine féminin, comme étant un Bouddha impassible. Voyez, elle s'en ira ainsi le long de la rampe de cet escalier qui donnait ainsi sur une porte dissimulée dans la boiserie. Et elle ira s'asseoir au milieu de ce décor fantastique, dans un trône banquette rehaussé de 5 grands miroirs. Tout le monde a cédé à la tentation d'aller ainsi la rejoindre et de s'agenouiller devant elle un par un, de lui rendre hommage, même si elle était une pâle copie de l'impératrice du 8e siècle. Car Perlotti avait beau avoir invité l'impératrice d'alors qui s'appelait Tsehi, mais elle n'aurait jamais supporté un tel voyage. Alors elle est représentée tout de même par deux Chinois, c'étaient d'ailleurs les seuls de la soirée, qui venaient de lire un petit poème de Sa Majesté, un mot d'excuse en quelque sorte. Ils auraient pu provoquer un énorme scandale, mais finalement ils ont pardonné ce petit crime de la Majesté, car Pierre Loti n'hésite pas une seconde. Pour lui, il n'y a d'urgent que le décor. Alors il demande au meilleur ami de son fils, qui est d'origine annamite et qui étudie ici à Rochefort, de se présenter. Et le pauvre, bien entendu, endosse le rôle de sa vie, celui d'Utsétienne. Il est vrai que dans le théâtre chinois, le rôle des femmes est donné aux hommes. Mais Pierre Loti court un risque, car en effet, donner le rôle d'une impératrice chinoise à un jeune annamite, c'était la hire de l'ambassadeur. Finalement, les deux Chinois ont bien compris que Pierre Loti revisitait à sa manière, je dirais, la grandeur de l'Empire du Milieu. Alors ils sont repartis, ravis, et ont avoué à Judith Gauthier, en repartant de Rochefort, c'est comme si nous étions repartis de Chine pour la seconde fois.
Belle victoire.
Une belle victoire pour Pierre Loti, qui, je dirais, avait un pouvoir assez étrange sur ses invités, parce qu'il sait travailler ce décor. Il utilise la perspective et notamment, nous empruntons là un escalier qui, selon Sacha Guitry, qui nous rendra visite en 1931, n'était fait que pour être descendu et dont la dernière marche pour lui était en bas et devait mener sur rien. En effet, ce grand admirateur de Pierre Loti, qui l'appelle notre maître à tous, avait bien compris l'enjeu de cet escalier. Car Pierre Loti, alors, devait toujours apparaître en haut de cet escalier et les invités étaient médusés ainsi par le port majestueux qui émanait de sa personne. Car il savait profiter de la perspective et aussi de ses rampes asymétriques qui renforcent le caractère, je dirais, majestueux du personnage. Alors évidemment, quand il reçoit Alice de Monaco, la princesse excentrique, il lui réserve toujours quelques surprises. Les rideaux s'ouvrent après que les trois coups eurent retenti et voici que le piano se fait entendre et Pierre Loti de descendre ainsi ce grand escalier. Quel dommage que Cécile Sorel ne l'ait pas emprunté car elle aurait pu avouer en 1933, là, sur la dernière marche, « L'ai-je bien descendu ?» Malheureusement, voyez-vous, il va falloir le remonter. C'est déjà ça. Alors, au fur et à mesure qu'on remonte cet escalier, on va remonter le temps. C'est, je dirais, c'est le second pouvoir de cet escalier qui, dans un sens, donne un certain prestige et dans l'autre sens, eh bien, vous permet de remonter le temps puisque nous allons découvrir la salle gothique. Alors, Pierre Loti va surfer un petit peu sur la vague troubadour du 19e siècle. Beaucoup d'écrivains vont être transportés par Walter Scott, l'auteur de d'Ivan Noé. Et le Moyen-Âge, je dirais, va être redécouvert. Je dirais qu'on apprécie de reproduire, comme Sarah Bernhardt, un petit côté médiéval chez soi. Pierre Loti a 36 ans. Il revient de Nagasaki au Japon. Il vient d'être acclamé par la critique après le succès de Pêcheurs d'Islande. Devenu riche et célèbre, il a l'épouse Blanche. Et celle-ci lui annonce, alors quelques semaines après son mariage, qu'elle était enceinte. Il était fou de bonheur. À cette époque, il allait en villégiature souvent du côté de Marennes. Et un dimanche, il ramène alors des bégéminées gothiques flamboyantes qu'il va poser ici à Revers. Il veut profiter avant tout de ce décor de remplage orienté vers l'intérieur qui ainsi lui permettait de voyager dans le temps, comme si je dirais Huysmans dans À rebours. Il va ainsi œuvrer pour que le décor véritablement soit mis en valeur et lui donne cette force suffisante de s'en retourner dans le temps. Alors ici, il veut absolument inaugurer ce salon lors d'une soirée fabuleuse. Ce salon fut inauguré le 12 avril 1888 en présence de 24 personnes triées sur le volet. Ce salon, en effet, sera l'occasion pour Pierre Loti de rendre hommage à sa femme Blanche, qui jouera le rôle de la reine de France de cette époque. Les invités vont rester quelque peu médusés, car ils ont reçu quand même plus d'un an à l'avance le carton d'invitation. C'est en effet au mois de janvier 1887 que Pierre Loti va envoyer un carton d'invitation que nous voyons ici sur le mur encadré, où il est écrit « Messire et Dame Pierre Loti requièrent de leur bailli grand-nièce et contentement en venant dîner dans leur hôtel de la rue Saint-Pierre à Rochefort-en-Nice ». Il les convie en fait le 12 avril 1888 au dîner du roi Louis XI. En effet, il s'inspire d'un fait historique. Dans les années 1470, la reine Charlotte de Savoie est venue à Rochefort avec toute sa cour, elle représentait Louis XI. Et Pierre Loti, lui, jouera le rôle du maître du temps, donc il est un petit peu à l'écart de ses convives et va assister, bien entendu, à la présentation de chacun. Chacun arrive comme s'il surgissait d'un tombeau, réveillé par de l'olifant, et ils vont arriver le 12 avril 1888 par cette porte, gardée par les serviteurs qui vont ainsi écarter leur hallebarde. Le héros en armure qui déclame le nom de chacun les présente ainsi à la reine. La reine de France occupera ainsi le centre de ce salon. Et les invités de remarquer alors au passage une fantastique cheminée qui n'est qu'une pure fantaisie, un décor en fait fait de briques et de brocs, puisque seuls les jambages sont tout à fait authentiques, puisqu'ils datent du 15e, 16e siècle, ce sont en fait des panneaux bretons. Et de part et d'autre de la cheminée, on remarque aussi deux panneaux toulousains du 17e siècle. Le plafond, lui, est une pure évocation, si je puis dire, des plafonds à la française. Et sur les corbeaux de celui-ci, on découvre des masques grimaçants qui s'inspirent de l'art océanien. Vous voyez, il y a toujours cette idée de vouloir voyager à la fois dans le temps, dans l'espace, enfin de vouloir voyager à tout prix. Mais Pierre Loti, lui, va être pris au piège par le charme de cette soirée, puisqu'il écrira dans son journal intime « J'ai par quelques instants fugitifs eu l'impression d'être à la cour du roi Louis XI ». Il avait recommandé à chacun d'apprendre le vieux français et de se présenter dans des costumes d'époque, des costumes usés et ternis, pour faire croire qu'ils venaient de dormir pendant plusieurs siècles dans leur tombeau et d'être réveillés comme par enchantement. Chacun des invités va se placer de part et d'autre la reine, dans des fauteuils, dans des stalles, et on reçoit une petite table de serviteurs costumés. On remarque qu'il y a là des écuelles, des tranchoirs, des tranches de pain qui servent d'assiettes, et chacun a de devoir ainsi respecter les manières de l'époque. Ces messieurs vont manger avec trois doigts, les dames, elles, allaient utiliser des couverts assez étranges, ce sont des cuillères, il n'y a pas de fourchette à l'époque, des cuillères ou alors des petites pelles. Vous pouvez voir ici, qui ne sont pas très agréables en bouche, il est vrai. Et Pierre Loti, qui ne s'étonne guère, bien entendu, de l'effet qu'il produit, car c'est un véritable cabotin, un véritable potache, qui veut se distraire en permanence et qui, bien entendu, n'aura de cesse de s'étonner de l'émotion qu'il pourra lire dans le regard de ses voisins. D'ailleurs, il les met bien à l'aise. Gardez-vous de vos voisins. Restez le dos bien calé, vous risquez un éventuel coup de poignard, on ne sait jamais. Effectivement, chacun va devoir veiller à sa personne. En effet, à l'époque, on ne pouvait pas trinquer n'importe comment, au risque d'être empoisonné. Car si on n'avait pas de couvercle, on pouvait voir ainsi se déverser par accident quelques gouttes du breuvage du voisin. Alors, Pierre Loti de réinventer ce qu'on appelle les hanapes, qui étaient généralement petits, portés sur soi pour des raisons de sécurité, qui sont en fait des gobelets à couvercle. Et Pierre Loti les réinvente, mais alors ils sont beaucoup plus gros que les hanapes de l'époque, puisqu'ils détournent des rondes serviettes et des lampes à pétrole. Et chacun va devoir ainsi trinquer à la manière de l'époque. Alors évidemment, on est littéralement ébloui par le menu. Un menu extraordinaire, rabelaisien, puisque vous avez 13 services. Il y a notamment, je dirais, des plateaux qui vont arriver par cette trappe. Alors c'est par cette trappe que jadis ses grands-mères surgissaient. Car en effet, l'escalier central faisait partie de la location et Pierre Loti a toujours gardé cette trappe qui est un vestige de ses années noires, puisque les grands-mères accédaient à leur chambre grâce à une échelle plantée dans la vie de la cuisine. Alors effectivement, il y a des cicatrices qui ne vont jamais disparaître. Et par cette trappe, qu'est-ce qu'on voit arriver? Eh bien, il y aura des petits plateaux qui présentent notamment de l'écureuil rôti, du hérisson à la sauce cameline. Alors évidemment, devant l'étonnement général, Pierlotti sourit. Il faut dire que la lamproie pêchée dans la Dordogne, alors là, va susciter l'intérêt. C'est un poisson de rivière appelé petit vampire qui est aussi laid et délicieux que la lotte et qui est présenté entière avec sa gueule peu ragoûtante pleine de crochets. Évidemment, l'effet fut saisissant parmi les dames qui hurlent de terreur. Ensuite, on voit surgir notamment une sorcière qui va jeter des sorts à toute l'assemblée et qui provoque une véritable panique. Elle sera capturée heureusement par la garde de la reine. Et puis aussi de s'excuser, bien sûr, de faire venir un ménestrel qui arrive à son secours en pleine nuit. Et le pauvre demandait le gîte et le couvert avant de repartir le lendemain pour la cour du duc de Bretagne. Alors il va compter, pour remercier ses gentils seigneurs, il va compter ses plus belles vilainelles. On a tout fait d'oublier la sorcière qui d'ailleurs fait partie des convives maintenant. Au cas où on serait attaqué, on pourrait avoir besoin d'elle. Cependant, il y aura là aussi un paon royal qui est présenté par quatre pages costumées. Il est rehaussé de tout son plumage, il fait la roue et Pierlotti, bien entendu, est subjugué, tout comme la reine d'ailleurs, et les invités. Cependant, il y aura d'autres surprises. On aura des petits pâtés dans les assiettes des dames qui vont exploser sous la pression de merles vivants. Il y a aussi des nains qui vont apparaître au milieu de gros pâtés en croûte, qui allaient voler en éclats, qui allaient danser autour des invités. Il y a des jongleurs qui manipulent les torches enflammées. Il y a aussi des fous qui feront teinter leurs grelots autour des invités. Il y a même des voisins qui vont passer sur la petite tribune qui domine un petit peu la pièce. Pierlotti avait très très peur de ressentir l'ennui, donc il n'hésite pas à rémunérer des voisins qui, contre un verre de vin, endossaient ainsi un costume à mi-corps. L'essentiel était d'apparaître, hein. Donc le reste étant caché par une partie de la tribune, eh bien, ils allaient pouvoir ainsi saluer les invités avant de repartir. Alors, Julien Viau, dit Pierlotti, eh bien, apprécie de surprendre ainsi à chaque instant ses invités, et lui, en fait, s'est retrouvé piégé. Véritablement.
Vous disiez qu'il avait peur de l'ennui.
Oui. En fait, l'ennui, c'est la mort, tout simplement. Parce que lorsqu'il ressentait l'ennui, il ressentait le poids du temps. Je crois que toute sa vie, il a souffert de neurasthénie, une grosse dépression, qu'il traduira d'ailleurs dans sa devise « Mon mal, j'enchante » du verbe enchanter. En effet, cet homme est peut-être un des derniers romantiques qui craignait les effets dévastateurs je dirais, de ce XXe siècle qui arrivait à grands pas et qui n'appréciait guère. Il n'appréciait guère l'industrialisation galopante, il n'appréciait guère cette modernité dont on vante les mérites, qui fait accélérer les moteurs des trains, qui fait apparaître l'avion. En fait, il n'a plus, je dirais, cette même saveur qu'autrefois. Le temps, je dirais, n'a pas du tout la même vitesse. Et lui aime pouvoir apprécier, je dirais, les paysages. Et le temps, eh bien, semble s'écouler de plus en plus rapidement au fur et à mesure que on invente ainsi tous ces nouveaux prodiges de l'industrie et, je dirais, de l'automobile, par exemple. Alors ici, eh bien, cette soirée va s'achever très vite à l'aube, puisque malheureusement, l'aube est déjà là, déjà, dira-t-il. En effet, à peine la danse à la torche terminée, eh bien, les premiers rayons du soleil allaient frapper les invités qui vont devoir regagner leur tombeau. Et Pierlotti est resté seul. Et il a gardé le décor intact parce que il voulait se ressouvenir, dira Alain Buisine, un de ses biographes. Il voulait absolument retrouver un peu de la magie de ce décor qu'il avait tant apprécié. Des journalistes parisiens avaient été conviés. Ils représentent le Figaro, le Monde Illustré. Ils avaient fait de magnifiques photos. Et Pierlotti était amateur de photographie parce qu'elle permettait de figer le temps. Et ils diront de cette soirée, ce n'est pas le caprice d'un riche millionnaire, mais la fantaisie du prince de l'esprit. Et Pierlotti avait soigné chaque détail du décor. D'ailleurs, vous voyez des verrières ici, des verrières décorées de différents blasons. C'est toujours les mêmes qui se répètent, hein. Sur la verrière de droite, vous avez le blason de sa femme. Elle est Néfrande Ferrière. Il est écartelé de tête de cerf et de pampre. Par contre, sur la verrière de gauche, c'est le blason complètement inventé de Pierlotti, qui choisit de le diviser en deux parties. Dans la partie haute, sur un fond d'eagle, un fond rouge, vous avez une plaque de métal en forme de croissant de lune. C'est le hausse-col des officiers de marine, symbole de 42 années de loyauté à la marine, qui aurait bien voulu qu'il choisisse, mais lui est resté fidèle, je dirais, à son poste, parce qu'il n'avait que trop besoin de la marine pour pouvoir ainsi être inspiré et écrire de la littérature. Alors il écrivait sous le nom d'emprunt de Pierlotti, premièrement parce qu'il écrivait par nécessité, sous ce nom-là, il avait trop peur d'être renvoyé. Et il avait choisi pour emblème alors un végétal qui est placé là sur un fond azur. On pense en fait que Ce végétal évoque une fleur de Tahiti, une espèce de laurier rose. Les Tahitiennes l'avaient appelé en effet à son arrivée en 1872 Roti. Cela veut dire rose ou laurier rose. En effet, il était brûlé par le soleil, il était rouge comme cette fleur, et alors elle se moque un peu de lui, de sa fragilité. Alors il gardera ce nom, puisqu'il le donne au héros du mariage de Loti, et finalement, lorsqu'il est tenu de se présenter dans les salons littéraires, il se fait appeler « Pierre, vous savez, je suis l'auteur du mariage de Loti ». Alors, il n'allait pas signer comme cela, évidemment, il choisira Pierre Loti.
Nous savons à présent l'origine de son nom.
Alors Pierre, c'est en raison de cette maison, hein, il est né rue Saint-Pierre, et il fallait absolument qu'il revienne ici avant de pouvoir repartir.
Où sommes-nous, Sébastien, à présent ?
Alors, nous sommes là au second étage de sa maison. Nous sommes, après avoir fait un petit détour dans sa maison natale avec la salle gothique, nous sommes revenus dans cette seconde maison qu'il a rachetée. À 49 ans, Pierre Loti va dormir là dans cette chambre. Il faisait chambre à part. Et à 49 ans, eh bien, il se dote d'une chambre très monacale. Alors, c'est vraiment...
Qui rompt complètement avec le reste.
Complètement. C'est un contraste saisissant, puisque là, c'est la chambre du militaire qui apparaît avec un visage sans fard, sans maquillage, et qui, je dirais, fait face à ses propres doutes. Toute sa vie, il est hanté par des questions d'ordre existentiel. Claude Farrère, l'auteur des Civilisés, membre de l'Académie française, grand ami de Pierre Loti, disait de lui à ce sujet qu'il était athée, résolument athée, désespérément athée et persuadé du néant final. Un homme qui est mu par une volonté de se réconcilier avec Dieu et qui va chercher des réponses. Alors dans cette cellule monacale, vous découvrez ainsi différents exemples, de cette recherche, puisque vous avez notamment au-dessus de son lit eh bien, un extrait du Coran, « Au roi des rois ». Pierre Loti lisait le Coran. Il s'est intéressé aussi à l'hindouisme et au bouddhisme, et s'est intéressé aussi au catholicisme, puisque de par son père, il était d'origine catholique. Alors il va chercher des réponses, et malheureusement, il n'aura aucune. Même s'il a fait un pèlerinage en Terre Sainte à l'âge de 44 ans, qu'il a traversé le Sinaï d'ailleurs, il a écrit un très beau « Le désert », qui offre certainement ses plus belles pages sur sa méditation, et il voulait rencontrer Jésus, alors il avait médité longuement, il avait jeûné, et une fois arrivé dans le jardin des Oliviers, malheureusement il est déçu parce que, à l'aube, après avoir médité pendant toute une nuit, Jésus ne viendra pas. Il faut dire qu'il est de plus en plus angoissé, puisqu'à l'âge de 46 ans, en 1896, il perdra sa mère. Emporté à l'âge de 86 ans, c'est un bel âge, mais il dira tout de même « Je suis devenu orphelin ». Ici, à 49 ans, lorsqu'il... crée cette chambre, eh bien, c'est le militaire qui parle. Vous avez un petit liquage près duquel se trouve un boîtier que l'on appelle dans la marine l'équipé. Alors, c'est tout à fait normal de retrouver cela ici, puisqu'il dira, même cette maison, c'est mon paquebot immobile, c'est là où je suis né, c'est là où de temps en temps je viens me poser, c'est là qu'est mon logis fixe, mon vrai logis. Pierre Loti apprécie la rigueur de la marine, puisqu'elle tempère ses crises de neurasthénie. Alors, évidemment, cet homme fragilisé, qui n'a pas pu, je dirais, se réconcilier avec Dieu, va lutter avec ses propres moyens contre le temps qui passe et ses effets dévastateurs. Alors il n'accepte pas de vieillir et va ainsi faire beaucoup de sport. Un esprit sain dans un corps sain. Cependant, à l'Académie française, on ne l'appréciait guère parce qu'il était jeune, certes, le plus jeune membre de l'Académie française, mais en plus, c'était une véritable provocation parce qu'il ne vieillissait pas. Il semblait que le temps ne faisait que l'effleurer. Car en effet, il va utiliser ainsi ce nécessaire à maquillage qu'on peut voir sous cette vitrine, un nécessaire en cristal et capuchon d'argent. Il joue vraiment un personnage de composition qui tranche radicalement avec le militaire qu'on peut voir en uniforme sur cette photo là-bas. Un militaire qui contraste, qui était sérieux, droit, respecté de ses hommes, parfois un peu moins de sa hiérarchie. Mais voici que le dandy, lui, va apparaître, maquillé, les yeux cernés de colle, qui ne parle ainsi qu'une voix de mourant de malade, dira un des frères Goncourt, et qui répand de ses odeurs autour de lui. Évidemment, les femmes sont littéralement subjuguées par tant de charme, d'autant plus que son parfum s'appelle Loti Rose d'Amour, quand même. Tout cela, bien entendu, va prêter le flanc à la critique, à l'Académie française, car certains pensaient qu'il portait un corset à baleine pour avoir un corps aussi jeune. Alors, il présentera à l'Académie française une photo qui fit hurler. On le voit. Donc c'est une photo qui présente une académie de lui. Et il écrit, ça c'est pour montrer les baleines de mon légendaire corset, signé Pierre Loti. évidemment, à l'Académie
française. Et nous découvrons donc un homme nu.
Un homme nu, voilà, une académie. On découvre le grand sportif qu'il était.
Très musclé.
Très, très musclé, puisqu'il s'entraînait chaque jour dans une salle de sport qu'il avait aménagée dans le chez de son grand-père, et qu'il va aussi, je dirais, faire du cirque. Il adore le cirque. Quand un cirque passe à Rochefort, le voici voltigeur. Sa mère n'apprécie guère, puisqu'elle dira « J'aurais tant aimé que tu aies d'autres succès », et le voici qui saute sur les chevaux galop, qui traverse sa sang enflammée, qui achève ses numéros la croix de fer aux anneaux, sous les hurrahs de la foule quand même. Cet homme, cependant, va être très protégé. Il a dans son sillage des amis politiques très importants, comme le célèbre ministre Louis Barthou, qui entrera en 1918 à l'Académie française d'ailleurs, dont la femme, Alice, était littéralement sous le charme. D'ailleurs, en 1905, elle aurait dû recevoir ce moulage en bronze de sa main d'écrivain, que l'on voit ici, posé sur une petite table au centre de la pièce. Mais cette main est pleine de rides. Et Pierlotti avoue, elle est ratée, elle est trop ridée. Alors il n'osera pas lui offrir pareille horreur, puisqu'elle fige non pas sa jeunesse, mais sa vieillesse. Alors on suit un petit couloir qui donne sur une porte stylisée à la mode orientale et on pénètre dans la mosquée.
Stupéfaction, Sébastien.
Alors oui, c'est un univers qu'on n'imagine même pas à Rochefort, d'autant plus à cette époque, je dirais. La mosquée de Pierlotti. Alors la mosquée, en fait, occupe une grande partie du second étage de cette maison voisine. Il venait d'achever la salle Renaissance et là... il va réunir tous ses trésors.
Mais il n'est pas converti à la religion, pourtant.
Non, il aurait bien aimé, mais il avait trop d'amour pour sa mère, pour lui faire de peine. Il est toujours resté fidèle à ses racines protestantes, même si il n'hésitait pas à jouer le bon musulman ici, qui priait. Alors en effet, ce salon est extraordinaire, de par ses dimensions. Il est immense, avec un plafond qui culmine à plus de 10 mètres. Un plafond en cèdre du Liban du XVIIIe siècle, il avait ramené de Damas, grâce, dit-il, à Maisonnette contrebandier. Il avait, semble-t-il, sauvé là une vieille maison en ruine, à qui il a racheté la plupart de ces éléments que vous voyez en bois qui décorent le plafond et les murs. Ces éléments sont en bois marouflé, c'est-à-dire recouverts de cuir. Pierlotti a des goûts très sûrs. C'est un amateur d'art. On peut le voir ici parce que ce salon, cette mosquée, est décoré d'une multitude de carreaux de faïence qui viennent des quatre coins de l'Empire ottoman qui autrefois rayonnait des portes du Maroc aux provinces balkaniques. Alors ici, il va préférer un jeu de couleurs, il va préférer cette dynamique du décor. Et c'est pourquoi vous avez des carreaux aussi diversifiés, comme des carreaux marocains, zeliges, des carreaux azuleros andalous, des carreaux algériens, des carreaux perses qui dessinent les lèvres de Bouddha, puisqu'ils sont d'influence moghole, et puis vous avez des carreaux dysniques, qui parfois datent du XVIe siècle, qui sont reconnaissables par cette teinte rouge sang, une teinte qui est tout à fait facile à reconnaître. Alors, bien entendu, ici, il y a un décor inestimable qui aurait pu faire pâlir de jalousie André Malraux lui-même. Un décor qui fera de cette maison un monument historique en 1989. Au centre de la pièce, vous découvrez ainsi deux niveaux avec un sol recouvert de marbre et il y a une fontaine qui ne fonctionne plus aujourd'hui, qui donnait ainsi un peu de fraîcheur et qui vous permet de retrouver l'ambiance des salons de Damas. Il a été fasciné par cette cité et ses palais dignes des mille et une nuits. Cependant, de part et d'autre de cette pièce, vous avez une série de portiques, d'arcades soutenues ainsi par des piliers de marbre, du marbre des Pyrénées. Et ces différents portiques ne sont pas sans évoquer ainsi la splendeur du port d'Algérie et de ses anciens palais. Tout cela, bien entendu, fut en grande partie détruit par la colonisation. Et Pierlotti sera irrité par ce mouvement. En 1907, notamment lors d'un voyage en Égypte, il décrira l'horreur que provoque en lui l'engloutissement de l'île de Philae, engloutie sur les eaux du lac d'Assouan, un lac artificiel. En effet, on retient les eaux du Nil pour pouvoir ainsi avoir un réservoir d'eau suffisamment important pour faire de si profitables champs de coton, dira-t-il, dans la mort de Philae. Alors c'est sans doute grâce à cet ouvrage que René Maheu, en 1960, va sauver l'île de Philae que l'UNESCO donc, va déplacer, René Maheu étant le secrétaire de l'UNESCO à l'époque. Alors, Pierlotti va se doter d'une banquette dans laquelle il se love à la manière des sultans et il regarde ce décor. Il voyage ici de manière immobile. Il y a un certain silence. Il est totalement en dehors du temps. Alors il est vrai que s'il donne son nom, ce nom de mosquée, c'est sans doute grâce à ce mur orienté qu'il fait face. Un mur que l'on retrouve dans toutes les mosquées, qui donne l'orientation de la prière face à la Mecque, et au cœur duquel vous avez le mihrab, cette niche à prière, une flèche stylisée. Et devant ce mur sont posés deux Corans, tout à fait véritables, que Pierre Loti pouvait lire, car il lisait l'arabe. Alors cet homme, qui s'est investi toute sa vie dans cette cause pour la Turquie, eh bien, en avait peut-être compris l'essence. En effet, lors d'un voyage en 1876, il avait été littéralement subjugué par la magie d'Istanbul, où il stationna pendant 10 mois. Il avait parcouru toutes les rues de la ville et s'était installé, puisque c'était là le privilège de son grade, dans un pied-à-terre qui dominait ainsi le quartier des Youp et donc la Corne d'Or. Dans une des ruelles d'Istanbul, il va rencontrer par une nuit fabuleuse de beaux yeux verts, limpides, cachés derrière les grilles d'un harem à Moucharabieh. Julien Viaud, hypnotisé par ce regard, demandera à rencontrer cette jeune femme qui par ailleurs est déjà mariée, même si elle n'a que 16 ans. Heureusement, son mari voyage beaucoup pour affaires. Il va la rencontrer ainsi sur une caïque sur la Corne d'Or, et puis viendront d'autres rendez-vous qui l'amèneront à la rencontrer dans ce fameux café qui domine Istanbul, le café Pierre Loti. De là naîtra le personnage d'Aziyadeh, l'héroïne de son premier roman. Il faut dire qu'à son retour d'Istanbul, l'année suivante, à l'âge de 27 ans, il va transformer une partie du second étage de sa maison natale. Et là, en effet, nous découvrons ce second étage qui communique avec la mosquée. Et c'est une atmosphère beaucoup plus, intimiste, confinée. Il a tenu à garder les proportions des chambres d'autrefois. Ici, sur la droite, vous avez la chambre de feu Tante Berthe, la seule catholique de la maison, qui n'en reviendrait pas d'ailleurs de voir sa chambre transformée en un joli bazar turc. Pierre Loti, en effet, a ramené quantité de tapis qu'il dépose là dans cette petite chambre. Il s'installe dans cette banquette, joue de la vina indienne, fume le narguilé. En fait, il vit à la turque ici. Au fur et à mesure qu'il voyage, il va ramener, bien entendu, quantité d'éléments, notamment ces carreaux que vous voyez ici qui viennent du Maroc, ce sont les carreaux éliges. En effet, en 1889, il participe à une expédition menée par le ministre Jules Patenaud qui va donner ses lettres de doléances au sultan Hassan Ier du Maroc. Il est reçu à Fès et Pierre Loti, parce qu'il lui avait parlé dans la langue arabe la plus parfaite, se voit offrir par le sultan toute sa collection d'armes, des fusils de fantasia, des cimetières, des yatagans, tous aussi précieux les uns que les autres, qu'il va exposer là, pour la plupart, dans ce salon turc, et une partie est exposée dans la mosquée. Ensuite, il faut dire qu'il va arranger ce salon avec le portrait de cette Aziyadeh qu'il veut retrouver. Malheureusement, lorsqu'il revient vers Istanbul, 10 années ont passé et la malheureuse est morte depuis près de 7 ans. En effet, il comprend alors pourquoi il n'avait plus de nouvelles d'elle. Et il est profondément affecté par sa disparition parce que la vieille servante qui avait négocié ses rendez-vous le reconnaît et lui dit « Elush, Elush », cela veut dire « elle est morte à cause de toi, tu l'as tuée ». En effet, elle lui montre alors la tombe de cette jeune femme qui a été condamnée à mort 7 ans plus tôt par les femmes du harem parce qu'elle avait trahi leur mari, a été condamnée à mourir de faim à l'âge de 20 ans. Julien alors s'écroule devant sa tombe et pleure, nous dit-il, toute une nuit et signe alors à son retour le fantôme d'Orient. C'est un fantôme qui n'aura de cesse de le hanter et lorsqu'il doit se marier avec Blanche, il dira à sa sœur, vois-tu, défaut de connaître le bonheur, je vais alors essayer d'être heureux. Pierre Loti emmènera sa femme à l'Alhambra de Grenade en voyage de noces et là, il croit bon à son retour de redessiner le plafond qui sera ainsi ciselé dans du stuc à la manière des plafonds de l'Alhambra. Ce sont là des arcs à mukarna, c'est-à-dire des arcs en forme de nid d'abeille qui sont véritablement d'un raffinement extraordinaire puisqu'il a fallu plusieurs années pour sculpter ainsi un tel décor en stuc. Alors un décor très emblématique de ce personnage de Pierre Loti, orientaliste absolu, qui contraste résolument avec cette autre pièce qui fait face à ce salon turc. Et là, je dirais que c'est la part de Julien Viaud, le pénitent qui cherche toute sa vie comme une réponse et qui aurait préféré vivre sa vie dans le désert comme un bédouin. Il apprécie alors la simplicité de ses vies. Alors bien sûr, le désert lui permettait de s'entourer de silence qui était propice à la méditation, d'autant plus qu'il jeûnait souvent. Il mettait son corps à rude épreuve et là, il va dessiner dans une vieille chambre comme une tente de bédouin. Les murs sont blanchis à la chaux, décorés de quelques tapis et il dort par terre sur des vieux kilim qu'il a ramenés d'Afrique du Nord, près de stèles funéraires aussi, qui lui rappellent combien la vie est courte. Alors il regarde ici, habillé à la manière des bédouins, il regarde le ciel étoilé la nuit et attend une réponse. Malheureusement, il a beau guetter les étoiles, il n'y aura aucune réponse. « Personne ne me voit, dit-il, personne ne m'entend, personne même ne me répond. » Un être qui est profondément angoissé à l'idée de ne pas retrouver son frère, notamment ni sa mère, dont les fantômes continuent en quelque sorte à errer dans cette maison. En effet, il va ainsi se doter d'un bureau que l'on peut voir à travers un plexiglas qu'il nous faut protéger parce que c'est à la fois un sanctuaire et un lieu d'une grande fragilité. En effet, les éléments que l'on peut voir appartenaient à son frère autrefois. Le bureau, la bibliothèque, avec tous les livres de médecine et de moralité, c'était là des éléments qui appartenaient à son frère. Pierlotti apprécie de pouvoir écrire ici et va maintenir en vie, en quelque sorte, le souvenir de ce frère adoré mort trop tôt en mer, qui lui avait communiqué toute sa passion pour les voyages. Il faut dire qu'il y a un autre fantôme qui rôde ici, celui de la belle Asiyadé, qui s'appelle, de son véritable nom, Hatice Hanum, et on peut lire ainsi son nom sur une stèle qu'il a fichée, qu'il a plantée dans la mosquée en 1904. Il s'est rendu de nouveau à Istanbul, avait rencontré le sultan qu'il avait autorisé à enlever ainsi de nuit une des stèles de la tombe d'Hatice Hanum, son Asiyadé. Et il est écrit alors en vieux turc qu'elle était fille d'Abdullah le circassien, qu'elle est morte à l'âge de 20 ans, dite la Fatiha, la prière des morts, et elle est morte en 1880. Pierlotti va entretenir ainsi le souvenir de cette jeune femme, et avoue d'ailleurs, je l'aimais presque. Alors cet homme est toute sa vie plongé dans une éternelle nostalgie, dira un de ses biographes, et lorsque la nostalgie lui était insupportable, eh bien il demandait parfois à un de ses amis, à son intendance, Osman Dané, de monter sur le toit en terrasse, et on peut voir là, par cette fenêtre haute, un semblant de minaret qui a été ainsi installé en 1907. C'est là sans doute le dernier ouvrage, la dernière petite touche de Pierlotti qui a mis près de 30 ans à élaborer, je dirais, ce palais des rêves. Alors, effectivement, lorsque la nostalgie était trop forte, il faisait chanter l'appel à la prière dans tout Rochefort. On imagine la tête des voisins. Car en fait, Pierlotti va se laisser percer par un côté très mortifère qui est tout à fait propre à son époque. Sa grande amie Sarah Bernard, d'ailleurs, le recevait souvent allongé dans un cercueil, d'où elle surgissait soudain après avoir retenu sa respiration pendant 5 minutes et lui disait « Ravi, j'ai fait pour vous la morte, c'est là mon plus grand rôle. » Alors, il est normal que Pierlotti s'entoure de cercueils. Ce sont ce qu'on appelle des cénotaphes. Il respecte la tradition, en effet, des turbés, puisqu'il va évoquer ces turbés qui sont en fait les mausolées turcs. Et on rend hommage en Turquie à de grands disparus, des sultans, des saints, des guerriers. On leur rend hommage de la même manière. Et vous avez là-bas, dans un coin de cette mosquée, l'évocation de ces turbés, avec un décor raffiné, avec des niches funéraires qui accueillent les offrandes. Au centre, vous avez un cercueil drapé et vous avez 4 autres cercueils. Alors Pierlotti s'amusait à dire qu'il s'agissait là de cercueils d'un sultan et de 4 de ses fils. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Mais il s'agit certainement de l'expression de tous ses regrets, car ses souvenirs sont toujours vivaces. Il est profondément ancré dans cette nostalgie et transforme cette maison en mausolée, dédiée totalement à ses souvenirs, où il joue un petit peu à Peter Pan, où il est lui là, le maître à bord d'un pays imaginaire.